J'ai appris, comme vous, dimanche dernier, que Christian Monod abordera une deuxième partie sur le thème du sabbat dimanche prochain. J'ai donc renoncé à un thème qui, je crois, était sur mon cœur pour transpirer dans la prière cette semaine et chercher à rester dans ce thème du sabbat, ou en tout cas pas très loin, sachant qu'une prédication, aussi bonne soit-elle, annule la précédente. Alors, dimanche dernier, il nous a été rappelé que Dieu se reposa le septième jour de toute son activité créationniste, dans Genèse 2, versets 2 et 3. Et dans le psaume 121, verset 4, il nous est dit que le Seigneur ne dort ni ne sommeille, mais il veille à ce que ton pied ne chancelle pas. Retenons ce mot « veiller ». Il en sera question tout à l'heure. Le septième jour, le sabbat, le dimanche pour les chrétiens, n'est donc pas destiné à une suractivité de loisirs ni à une sieste dominicale bienvenue, bien méritée. La notion de sabbat, la notion de repos dans le sabbat est pour Dieu comme pour nous la cessation de nos six jours d'activité productiviste pour une parenthèse destinée à un repos dont la consistance, je dirais même l'essence, est l'approfondissement de notre relation d'amour avec le Seigneur et aussi l'approfondissement de la connaissance des commandements de sa parole. Le sabbat, c'est la marque de notre identité et aussi de notre culture de chrétien. Pratiquer le sabbat, c'est nous exercer à entrer dans une autre dimension, celle où la prière n'est plus un mécanisme, un devoir, mais un état d'éveil, de vigilance. C'est surtout remplacer, en tout cas pour moi, mon tempérament, qui souvent dicte nos actes et nos pensées, pour entrer dans l'actualité de Dieu. À Gethsemane, l'actualité de Dieu, c'est la perspective de la croix. Même le disciple le plus éclairé de Jésus, Pierre, ne parvient pas à gérer avec le Seigneur cette lourde atmosphère post-crucifixion. Il nous est dit, alors que Jésus lui demande de veiller et de prier, que plusieurs fois Jésus le réveille alors qu'il s'endort profondément dans cette actualité-là. Quelques heures plus tard, alors que Jésus dit à ses disciples « Allons pour me faire, c'est le moment, c'est l'heure pour que je sois livré », voilà que Pierre se saisit d'une épée et coupe l'oreille malencontreusement, enfin héroïquement et malheureusement d'un pauvre serviteur du grand prêtre appelé Malchus. Et j'ai parfois l'impression que nos vies, comme nos églises, ont la difficulté même de veiller et prier une heure avec moi, dit Jésus, pour toutes sortes d'activités dont les fruits ne sont pas toujours très visibles. Mais j'aimerais toutefois ouvrir une parenthèse. Dans les évangiles, il nous est dit maintes fois que Jésus se retirait de ses disciples le soir pour prier et veiller la nuit en relation avec son Père. Toutefois, il y a deux textes, dont Matthieu 8, 24 et dont Marc 4, verset 3, qui nous citent un épisode où en pleine tempête, en plein jour, au milieu du lac de Tibériade, Jésus dort profondément dans la barque au grand désespoir de ses disciples qui sont complètement paniqués. Personnellement, je trouve ce moment réconfortant. pour moi qui résiste très difficilement à l'appel de Morphée. Je peux en une minute quitter des amis et me mettre à côté d'eux sur le canapé et dormir profondément sans que leur bruit me dérange. D'ailleurs, ça l'a fait des années que je bannis les invitations du 31 décembre parce qu'à 11h, quand il faut attendre encore une heure pour les 12 coups de minuit, c'est pour moi insupportable. Et d'apercevoir que Jésus, dans son incarnation humaine, a besoin de dormir, cela me fait du bien. Et comme le dit le psaume 127 au verset 2, le Seigneur en donne autant à ses disciples, à ses enfants pendant leur sommeil. Et il m'est arrivé de prêcher occasionnellement dans une église à la Vallée de Joux ou à Saint-Martin-Auron, derrière Auron, dans le canton de Fribourg, et d'apercevoir au moment de ma prédication de braves paysans levés à 5 heures du matin pour gouverner le bétail, comme on dit chez nous, c'est-à-dire traire les vaches en français, en train de dormir sur les bancs de l'église pendant mon message, et de prier pour eux en leur disant, au Seigneur, « Seigneur, donne-leur autant pendant leur sommeil. » Mais j'ai une question pour vous ce matin. Comment dormez-vous? Est-ce que vous dormez bien? Ou avez-vous de la peine à vous endormir? Après le dixième mouton, tout d'un coup, voilà toute une série de pensées qui viennent de soucis, de préoccupations tenaces, d'angoisses à répétition qui viennent vous occuper et vous empêcher de vous endormir. Ou alors, vous êtes sujet à des insomnies ou à des cauchemars à répétition qui sortent d'on ne sait où et qui fait que votre sommeil n'est pas synonyme de paix profonde. Si c'est le cas, chers amis, à la fin du culte, approchez-vous de moi et de Christian assez rapidement pour que nous puissions prier pour vous. Je pense qu'il n'est pas... Ne repartez pas avec ce problème. Je ferme la parenthèse. J'en arrive au sujet de ce matin, quand même, qui sont « Nos nuits sont-elles aussi belles que nos journées avec le Seigneur ?» Et j'aimerais introduire ce moment par deux lectures, dont la première dans Luc 12, 35 à 40. J'attends le texte en même temps que vous. Je lis dans la version français courant. « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. » Éveillés et pas réveillés. « Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. » Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et puis le deuxième texte en parallèle dans Marc. Marc 13, versets 32 à 37. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît.
Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera, tout à coup, ce que je le dis à tous, restez vigilants. Amen. Ces deux textes, je crois que je vais laisser mes lunettes, nous renvoient à notre rôle de serviteur. Serviteur d'une maison appartenant à un maître qui est parti au voyage et dont on ne sait pas quand il va revenir. Cette situation est historique et totalement réaliste au temps de Jésus. Les serviteurs étaient tenus de veiller jour et nuit sur une maison en l'absence de leur maître, en particulier par rapport aux voleurs. La seule incertitude, on ne sait ni l'heure ni le jour. Pourtant, dans l'évangile de Marc, que nous avons lu l'extrait, les versets précédents nous donnent un indice, notamment le fait que ce texte conclut toute une série de prédictions de Jésus concernant les temps de la fin, avec comme apothéose le monde qui sera en détresse, le soleil qui deviendra rouge, la lune qui disparaîtra et les étoiles qui tomberont. Et là, il nous dit, quand vous verrez ces signes, tenez-vous prêts car l'heure est proche. Avec les grands soucis de notre planète sur le plan climatique, politique et sanitaire, on peut se demander si l'heure n'est pas proche. En tout cas, l'urgence d'être éveillé me paraît opportun pour nous ce matin. Quand vous verrez ces signes, soyez vigilants, dit Jésus, veillez, l'heure est proche. Dans le protocole en vigueur à la cour de la reine d'Angleterre, il est prévu un serviteur pour lui ouvrir la porte de la voiture, un autre pour lui tenir le parapluie ou le parasol pour la montée des escaliers. Quant à d'autres, ils sont tenus de poursuivre et de surveiller la moindre toile d'araignée ou la moindre poussière de sa chambre à coucher. Alors, dans ces 70 ans de règne, où comme souveraine du Commonwealth, elle a dû faire d'innombrables voyages, imaginez qu'au moment où elle rentre dans son palais, elle retrouve ses serviteurs en train de goûter le mouton Rothschild 1947 qu'ils ont piqué dans la cave royale et qu'ils dégustent à la cuisine, ou que d'autres serviteurs sont en train de jouer aux cartes dans sa chambre à coucher. Je pense que ces messieurs et ces dames ont plus qu'une heure pour faire leurs valises et disparaître définitivement du palais royal. Mais dans le texte de Luc et de Marc, Jésus ne badine pas non plus. Punition sévère et partage du sort avec les infidèles dans l'évangile de Luc, et être battu d'un grand nombre de coups, pratique qui était punitive, qui était courante à l'époque. Mais ces deux textes surtout insistent, et je l'ai déjà dit, et ils soulignent l'impossibilité pour nous d'inscrire la venue du Fils de l'homme dans un horaire apocalyptique planifié. Vouloir calculer la venue de Jésus est une impasse spirituelle. L'histoire de notre monde doit rester ouverte sur son but véritable, le retour de Jésus-Christ pour juger les rois et les nations. Comme pour le voleur qui agit avec ses méfaits à une heure dont on ne connaît pas, ce qui compte, c'est notre éveil, notre attention. La venue du Christ est donc de l'ordre de l'inattendu et de l'imprévisible. Et ensuite, ces deux textes précisent les temps de la nuit à propos du retour possible du Maître. Luc les distingue en deux parties, le milieu de la nuit ou la fin de la nuit. Marc parle du soir, du milieu de la nuit, du chant du coq ou du matin. Chez les Juifs, la nuit était partagée en trois veilles ou trois veillées. La première avait lieu au partir du coucher du soleil et non pas du crépuscule, qui a lieu une heure après. Donc à partir du coucher du soleil jusqu'à minuit. La deuxième avait lieu de minuit jusqu'au chant du coq. Alors pour ceux qui ont eu le malheur de voyager avec moi en Roumanie, je vois qu'il y en a qui rigolent déjà, ils savent très bien que dans les fameux villages de Transylvanie roumaine que nous avons, dans lesquels nous avons séjourné, le chant du coq se situe, en tout cas en été, entre 3h30 et 4h du matin. Petite précision. Et la troisième veille a lieu entre le chant du coq et le lever du soleil. Non pas le lever du jour, mais le lever du soleil. Que faisons-nous le 21 décembre, à la première veille de la nuit, où le soleil se couche à 16h45 chez nous, ce qui fait une veille de 7h12 jusqu'à minuit? Tellement de choses à la veille de Noël que finalement, fatigué, je m'endors à 23h devant la télévision. Que faisons-nous le 21 juin à la première veille de la nuit? Le soleil se couche à 21h52 et la veille dure 2h08. Que faisons-nous demain soir, lundi, à l'appel des veilleurs de prière avec Olivier à 20h, ou la prière mission aussi demain soir à 20h? Que faisons-nous entre une grillade au bord de la piscine ou sous la véranda? Ou sommes-nous d'accord d'être des veilleurs ensemble, des sentinelles sur la muraille de la maison de Dieu pour veiller et discerner les temps? Je vous laisse cette question. Je me réjouis de vous voir demain soir. Parce que la question, c'est quel genre de serviteur je suis? Au service de la reine d'Angleterre, au service de Christ qui vient. Et puis, ça c'est pour la première veille, et puis il y a la deuxième veille, celle de minuit à 4h du matin. Alors, en tant qu'heureux dormeur, demandons au Seigneur des rêves spirituels, des révélations, ou comme l'a partagé Patrick Collet récemment, si nous sommes réveillés, peut-être que Dieu nous met à cœur un sujet pour lequel il nous demande de prier dans l'urgence. Quant à la troisième veille de la nuit, alors là on est tous différents, au grand désespoir de ma femme, comme le coq, je suis réveillé à 4h du matin. Heureusement pour elle, je ne chante pas. Alors mes excuses à ceux qui laissent leur tablette sur la table de nuit et qui reçoivent mes SMS ou mes mails entre 4h30 et 6h du matin. Alors la question, être serviteur-veilleur n'est pas une question de devoir être absolument réveillé. Et j'aimerais pour cela encore aborder une lecture dans Matthieu 25, 5 à 12. Je vais lire avec vous. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, il est parlé des 10 jeunes filles, des 10 vierges,
parabole dans Matthieu 25. Donc c'est l'avant-dernière parabole, juste avant le temps de la passion, juste avant le temps de la croix. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, le fameux témoin de mariage réveille les 10 jeunes filles. Allez à sa rencontre et allumez vos lampes. C'est donc l'huile de notre lampe, de notre esprit, qui va déterminer notre rôle de serviteur fidèle, et non pas une mystique inhumaine de la prière. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui stimule notre esprit. Sachant que les veilles du jour sont destinées vraiment à nos obligations journalières, à l'éducation de nos enfants, à nos activités professionnelles, comment j'utilise mon temps de libre, y compris mon dimanche, mon sabbat, ou celui de la première veille de la nuit, par exemple. Qu'est-ce qui stimule ma vie intérieure ? Le repos de Dieu, ou la société des loisirs, ou de divertissement, sachant que le mot divertir, en racine grecque, signifie nous faire sortir de la vertu. Est-ce que le temps pour nous n'est pas venu de renouer avec un véritable sabbat, un repos de Dieu dans nos vies, un sabbat indélébile qui, comme une huile, remplit nos vies, remplit nos lampes pour le jour où ? Pour le jour où ? Et j'aimerais conclure avec cette lecture dans 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 10. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que quoi, que soit que nous veillons, soit que nous dormions, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors soyons vigilants et demandons à notre Seigneur d'être vigilant dans notre sommeil comme dans notre éveil. Amen. Je vais prier. Retourne-nous, Seigneur, ce matin, dans nos habitudes qui pourrait être un piège pour nous, alors que tu nous fais ce signe des temps, que l'heure est proche, mais que nous ne savons ni son jour, ni son heure exacte. Alors merci pour cela, parce que même toi tu ne le sais pas, seul le Père le sait. Mais il y a pour nous cette urgence à être vigilant, à veiller, à t'écouter, à nous arrêter, à te demander aussi que les activités qui précèdent notre sommeil soient en toi, que notre sommeil soit vraiment en toi, que notre éveil aussi soit accentué
et aiguisée pour que nous comprenions encore mieux l'urgence d'être ensemble en Église, vigilants et attentifs aux temps qui viennent. Seigneur, nous nous plaçons devant toi aussi dans ces convocations de prière, de veilleurs de prière le lundi avec Olivier et plein d'autres. Merci pour leur fidélité. Dépose aussi en nous ce que tu attends, que nous sachions briser nos habitudes, nos horaires, nos planifications, pour entrer dans quelque chose de nouveau, soit seul à la maison, soit en communauté. Je te demande que la température de notre prière puisse vraiment monter. Oui, Seigneur, aie pitié de nous aussi pour nos suffisances, notre conformisme parfois spirituel. Et merci parce que ce matin, tu viens à quelque part aiguiser notre curiosité en toi. Et puis que ceux qui aussi ont des problèmes pour s'endormir dans la paix puissent aussi ce matin recevoir une délivrance à la fin du culte. Au nom de Jésus, Amen.